France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec l'avocate Marie Dauzé ce soir. Elle publie aux éditions de l'Observatoire Éloge de la prescription, un essai à contre-courant des tendances du moment. Elle y dénonce une dictature de l'émotion avec une place toujours plus grande accordée aux victimes et elle n'hésite pas à parler de populisme pénal. Marie Dauzé va même jusqu'à plaider pour l'oubli judiciaire, y compris en matière d'atteinte sexuelle sur mineurs. Et cela alors qu'une plateforme d'écoute a été mise en place cette semaine pour les victimes d'inceste.
Les personnes qui ont été victimes ont besoin que la parole, leur parole, soit entendue et prise en compte jusqu'à construire une politique publique.
Marie Dauzé nous dira ce qu'elle pense de cette initiative et des propos du juge pour enfants Édouard Durand que l'on vient d'entendre. Elle nous dira pourquoi, selon elle, la justice n'a pas vocation à engager des poursuites de plus en plus tard, pourquoi elle croit à la vertu de l'oubli au risque de choquer et d'être inaudible, comme elle l'est d'ailleurs sur un autre dossier, celui du retour des enfants de Syrie. La Cour européenne des droits de l'homme doit d'ailleurs se pencher sur la question la semaine prochaine. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Juliette Gou, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, ce sera l'occasion de parler de l'état d'urgence sanitaire, du projet de loi sur les responsabilités pénales, actuellement en débat au Parlement, de l'état des locaux de garde à vue et de bien d'autres sujets, car le droit, on l'oublie parfois, se niche absolument partout. À 19h, le journal de Corinne Audouin, 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on parlera des relations de voisinage, pour le meilleur et pour le pire. Là aussi, les tribunaux en savent quelque chose. Alors, que vous soyez en très bon terme ou pas avec vos voisins, n'hésitez pas à composer le 01 45 24 7000 d'avance. Merci à nos standardistes, ainsi qu'à Valentin Pérez, Ludovic Asselot, Louis Audebert et Jenab Sangaré.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Maître Marie Dauzé.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes avocate au barreau de Paris depuis 20 ans. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire un livre intitulé « Éloge de la prescription ». Alors pourquoi un livre sur la prescription ? Si j'ai bien compris, c'est qu'elle serait en danger d'une certaine façon ?
Oui, la prescription est un principe fondamental à l'agonie. De réforme en réforme, on en a limité son champ d'action, on a prorogé les délais, on a reculé les points de départ du délai de la prescription. Si tant est qu'aujourd'hui, à l'aune du droit existant, du droit qui s'applique aujourd'hui, plus grand chose n'est prescrit. Et c'est vrai que j'ai eu envie de me poser cette question, de revenir à ces 2000 ans d'histoire, parce que la prescription a 2000 ans d'histoire, et de rechercher en quoi ce principe est aussi et avant tout un principe qui nous aide à lutter contre l'arbitraire. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Cette initiative de la plateforme d'écoute, elle est formidable.
On va y revenir et on va entendre en longueur Édouard Durand. C'était simplement pour dire qu'effectivement, on allait en parler. Peut-être on va quand même rappeler de quoi il s'agit quand on parle de la prescription. Tout simplement, c'est le délai au-delà duquel l'auteur d'un crime, d'un délit ou d'une contravention ne peut plus être poursuivi, c'est ça ?
C'est ça, c'est-à-dire que c'est un délai au-delà duquel on ne peut plus poursuivre un crime. Et attention, l'oubli judiciaire, je n'aime pas trop cette expression, je le dis d'ailleurs dans mon livre, parce que ça n'est pas dire on ne peut plus poursuivre un crime que de nier ce qui a été fait ou la souffrance de la victime. C'est pas ça. C'est juste de dire 30, 40, 50, 60, 70 ans plus tard, la justice ne peut plus poursuivre ce qu'il vous a été fait parce qu'on pourra plus rien prouver et puis parce que l'homme peut-être qui fut celui qui vous a fait du mal a aujourd'hui 90, 100 ans et qu'il faut en tirer toutes les conséquences. Donc attention, ça n'est pas oublions judiciairement, nions judiciairement votre souffrance. C'est dire on ne peut plus poursuivre.
En tout cas, ce que vous dites, Marie Dauzé, c'est que si cette prescription est sans arrêt repoussée à coup d'exception au fil des lois successives qui sont votées, c'est en raison d'une dictature de l'émotion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des faits divers qui font que petit à petit, on change la loi pour pouvoir poursuivre malgré tout ?
Oui, alors le syndrome presque pavlovien, un fait divers, une loi, on le connaît maintenant depuis 20 ans. On pensait qu'il allait s'arrêter avec notre nouveau garde des Sceaux, mais force est de constater que pas du tout. Et c'est un réflexe qui rend d'abord illisible le droit pénal, on comprend plus rien au texte, qui s'entremêlent les uns les autres et qui, à mon humble avis, pose un vrai problème de sûreté. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire quand je parle de la dictature de l'émotion, c'est que il manque des endroits où la parole doit être recueillie. il manque des endroits où la souffrance des victimes doit être prise en considération et soignée.
C'est pas le tribunal.
Et, mais non, c'est ça ce que je veux dire. Moi, je veux pas passer pour celle qui considère que les victimes font semblant de souffrir. Ou je défends des victimes. Je défends des victimes et beaucoup. Et ce que j'essaye de leur dire, c'est la sphère judiciaire n'est pas là pour vous réparer. Vous ne vous réparerez pas dans la sphère judiciaire. Vous devez, donnez-moi votre dossier, donnez-moi cette plainte, et vous avez le courage de déposer plainte, et c'est formidable, moi je m'en occupe, mais il va avoir, lui, celui qui vous a fait du mal, une histoire entre lui et la justice. Vous, réparez-vous ailleurs. Là, il n'y a pas de vertu cathartique ou thérapeutique de la justice. Elle n'est pas là pour ça. Elle peut parfois aider, elle peut aussi parfois faire beaucoup plus de mal. Je peux vous l'assurer. Donc, ce sont ces espaces-là qui manquent.
Mais le fait de demander à la justice de reconnaître que l'auteur des faits vous a fait du mal, c'est pas déjà le début du commencement de la réparation, quoi qu'on en dise ?
Pas toujours. Et en tout cas, il ne faut pas que ce soit dans l'absolu. Parfois, pardon, mais il y a des victimes qui ne sauront jamais qui leur a fait du mal. Il y a des victimes de viol, on ne retrouvera jamais leur violeur. Il y a des victimes de violence, on ne retrouvera jamais l'auteur des violences. Bon, eh bien, elles arriveront malgré tout à se réparer, alors même qu'elles ne pourront pas le voir condamné. Ce que je veux dire, c'est que cette reconnaissance de leur souffrance ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'une culpabilité et par la poursuite ad vitam aeternam de celui qui leur a fait du mal. En fait, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que j'ai un problème avec le statut victimaire, la reconnaissance du statut de victime, la reconnaissance de mon identité de victime. Mais là, on perpétue le lien. Là, lorsqu'on réclame cette reconnaissance, on ne s'émancipe pas, ou en tout cas on ne lutte pas contre ce qui nous a été fait. Au contraire, on reste lié à celui qui vous a fait du mal. Et il n'y a pas plus aliénant que la vengeance ou la haine. La difficulté, elle est là, c'est que on risque fort de se trouver face à ce que disait Mauriac, une vengeance déguisée en justice qui est notre plus affreuse grimace. C'est ça la difficulté.
Mais là, vous êtes en train de remettre en cause des principes même de la justice. Oui. S'il y a des parties civiles dans les procès, c'est bien qu'on reconnaît qu'il y a des victimes.
Mais attendez, vous savez, pendant des années, les victimes ont été les parents pauvres de la procédure pénale. Et moi, je le dénonçais. Elles doivent être parties civiles. Et heureusement, elles bénéficient aujourd'hui de droits comparables à celui des mises en examen. Elles peuvent demander des confrontations, des auditions, des expertises. Elles existent dans une procédure, elles ont un avocat. Moi, je suis saisie de l'affaire Boulin. Je sais ce que c'est qu'une instruction menée dans les années 70 ou 80. La victime, c'était rien. Mais rien. Donc, c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de parler de la souffrance et de la réparation. Du mal qui vous a été fait. L'audience ne guérit pas du mal qui a été fait. Et je pense, en réalité, qu'il faut développer d'autres lieux de recueil de la souffrance et de la parole des victimes que la sphère judiciaire. La sphère judiciaire ne peut pas tout.
Alors, ce sera peut-être un des objectifs de la fameuse commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles qui a mis en place une plateforme, pas plus tard que cette semaine, une plateforme pour recueillir la parole justement des victimes. Ce numéro a été pris d'assaut dès le premier jour cette semaine. Mm-hmm. Sur le pourquoi de cette démarche, on va écouter maintenant en longueur le juge pour enfants Édouard Durand, qui est le co-président de cette commission. Il était sur France Inter au début de la semaine, il est avec Bruno Duvic, on l'écoute.
Notre devoir était d'organiser cette plateforme pour que chaque personne soit écoutée, entendue par des écoutantes, des écoutants qui ont l'expertise des violences sexuelles. Ça veut dire ne jamais banaliser, être en capacité d'évaluer son état émotionnel au moment où elle témoigne et, le cas échéant, lui proposer un accompagnement, une aide, un soutien.
Est-ce que, le cas échéant, vous serez amené à saisir la justice ?
Oui, à l'évidence. Il y a deux choses importantes. La première, c'est que cet appel à témoignage s'adresse prioritairement à des personnes adultes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Et parfois, il y a très longtemps, parfois sans en avoir jamais parlé à quiconque. Et il est important que chacun, aujourd'hui, sache que si un enfant est en danger, aujourd'hui, maintenant, et doit être protégé, il faut appeler la police, le tribunal ou composer le 119. Nous serons nous-mêmes amenés à réorienter des appels vers les services de protection. Mais cet appel à témoignage est indispensable pour construire une politique publique de protection.
Voilà pour cette plateforme, Marie Dosé. C'est vaste. Il s'agit d'écouter de réorienter, d'aider, mais peut-être aussi de saisir la justice, il le dit clairement, Édouard Durand.
Mais évidemment, et il a raison, il faut saisir la justice. Et il faut aider d'ailleurs les victimes à saisir la justice, les victimes de violences, les victimes de viols, les victimes d'inceste. Il faut les aider dans cette démarche, mais il faut leur expliquer ce qu'est la justice. C'est tout ce que j'écris. Et ce que j'écris aussi, c'est que j'ai une difficulté, par contre, avec la justice lorsqu'elle ouvre des enquêtes préliminaires sur des faits prescrits. Aujourd'hui, c'est la règle, quasiment. Des faits sont prescrits, on ouvre quand même une enquête préliminaire, on enquête, et à la fin on dit, il y a un classement sans suite parce que c'est prescrit, mais quand même, c'est sûrement une infraction pénale. Là, il y a une vraie difficulté, pourquoi ?
Et là, vous prenez l'exemple de l'affaire Baupin, et si j'en parle, c'est parce que ça nous concerne directement ici à France Inter, et vous en parlez dans votre livre. Les faits étaient prescrits, l'affaire a été mise sur la place publique, effectivement, l'enquête préliminaire a laissé entendre que ça pouvait être répréhensible. Il y a eu un procès en diffamation qui s'est retourné contre celui qui l'a intenté, Denis Baupin. Mais pourquoi est-ce que le parquet fait ça ? C'est parce que de toute façon, il y a peut-être le tribunal médiatique dans le même temps.
Oui, mais c'est ça la difficulté. Alors, premièrement, sur l'affaire Baupin, il y a quelque part une jouissance de l'arroseur arrosé, et j'y peux rien, même moi j'y ai cédé à cette jouissance, parce que je crois qu'il faut peut-être que certaines personnes cessent d'être dans la toute-puissance. Il a voulu aller jusqu'à la dénonciation calomnieuse, et bien voilà, diffamation, il a perdu, et quelque part, et bien il a pris ce risque-là, et dont acte. Je parlais pas tout à fait de ça. La difficulté, elle est que n'oublions jamais quand même que nous devons être face à des juges indépendants. Nous avons tous le droit de rencontrer un tribunal, de rencontrer des juges qui vont vous déclarer coupable ou non de votre accusation, de l'accusation qui est portée contre vous. La difficulté là, c'est que quand on classe sans suite un dossier en disant il y a prescription, mais il est possible tout de même que l'infraction soit caractérisée. Mais enfin, on judiciarise le soupçon. La personne qui dit « mais c'est pas vrai », c'est terminé. Elle est condamnée à vie. On sait très bien dans ce pays ce que veut dire « il n'y a pas de fumée sans feu ». Aujourd'hui, l'autorité poursuivante motive un classement sans suite de faits prescrits en disant « bon, il semble quand même coupable ». Mais enfin, est-ce qu'on peut imaginer ce que ça veut dire ? Pour celui qui se défend d'une accusation, il n'aura jamais rencontré un juge, c'est prescrit, et jusqu'à la fin de sa vie, il portera le soupçon et donc il sera finalement doublement coupable d'avoir commis ce qu'on lui reproche et en plus de ne pas avoir été jugé. Et là, c'est dangereux. Et là, je trouve vraiment que c'est dangereux. Mais c'est une question d'état de droit. C'est une question d'état de droit.
Il y a quelque chose de surprenant, si je peux me permettre, dans votre livre, Marie Dosé, par exemple, sur le cas de l'inceste. C'est vrai qu'il y a un mouvement de fond qui veut qu'aujourd'hui, la parole commence à se libérer sur ce dossier. Des associations sont à l'œuvre, des personnalités qui ont témoigné également. Et franchement, vous n'êtes pas tendre avec toutes ces personnes. Par exemple, si je prends le cas de l'inceste et je prends la psychiatre Muriel Salmona, vous y allez fort, vous la qualifiez de militante, victime, lobbyiste, et globalement vous n'êtes pas tendre avec les associations.
Alors, avec certaines associations qui, à mon avis, parfois n'aident absolument pas la victime à aller le mieux, mais l'enferment dans ce qu'elle a vécu. Et très sincèrement, j'ai aussi eu affaire à des victimes qui ont subi cela, c'est-à-dire une forme de propension de ceux qui s'occupent d'elles à les enfermer dans ce qu'elles ont vécu, et au lieu de les libérer, ou en tout cas de les aider à se libérer. Donc c'est vrai qu'avec ce type d'association, je ne suis peut-être pas très tendre, en tout cas, je suis plutôt inquiète du travail qui est réalisé. Sur Muriel Salmona, j'ai rien contre Muriel Salmona, je fais écho d'une tribune qui a été publiée dans Le Monde par des dizaines, je crois même que ça approche la centaine, je ne sais plus, de professionnels de l'enfance, d'avocats et de magistrats, parce que Muriel Salmona a rendu public un spot dont je ne veux pas faire la promotion, qui est extrêmement inquiétant et qui tout de même présente la victime d'inceste comme quelqu'un qui ne s'en sortira jamais, qui va souffrir jusqu'à la fin de sa vie, que personne ne croira, qui rencontrera le pire que ce soit dans sa famille ou dans l'institution, et qui finalement est vouée à la désespérance. Et les professionnels de l'enfance, eux-mêmes, on dit, mais on peut pas laisser ça comme ça. Enfin, là, on est en train, au contraire, d'abord de dissuader les victimes d'inceste de parler, puisque si elles parlent, personne ne les croira et ce sera encore pire, et puis surtout de leur dire, vous êtes jusqu'à la fin de votre vie voué à être malheureux et dans le désespoir. Et ça, pardon, mais c'est irresponsable et c'est dangereux. Et c'est ça que je dénonce. C'est ça que je dénonce.
Voilà, voilà concernant l'inceste. Concernant MeToo, Maître Marie Dosé, c'est vrai que là aussi, il y a une libération de la parole. Il y a une lutte globale aujourd'hui de la société contre les violences faites aux femmes. Vous vous étonnez même qu'on compte le nombre de féminicides et qu'il y ait des rassemblements lorsqu'une femme est tuée sous les coups de son conjoint.
Alors non seulement je m'en étonne pas, mais très clairement, la libération de la parole, il était temps. Et j'évolue dans un milieu suffisamment misogyne pour le savoir. Et vous savez, moi j'ai défendu des fémènes, donc je vois pas, on peut pas considérer que je suis pas féministe et que je suis contre la libération de la parole. Il était temps, et dans tous les milieux. Ce que j'évoque, s'agissant de ce que vous venez juste de dire, c'est pas du tout ça. C'est en réalité, on ne peut pas, à un moment donné, libérer une parole et ça pourrait conduire à la confiscation d'autres paroles. D'autres paroles. Qu'est-ce que vous m'avez demandé juste après ?
Non, je vous disais, moi je me suis étonnée que vous dénonciez le fait simplement qu'on compte les féminicides.
Oui, oui.
Parce que c'est vrai qu'un féminicide, c'est une affaire. Certains vont dire c'est un fait divers, mais deux féminicides, trois féminicides, 10 féminicides, 100 féminicides, ça devient un fait de société.
Oui, oui. Non, en fait, bien sûr que c'est un fait de société. Et ce que je dis, c'est lorsqu'on s'accapare un drame qui nécessairement doit être d'abord réparé dans la sphère du personnel, on prend un risque pour la victime. Ce que je dis, c'est que lorsque une femme a été violentée, lorsqu'un drame conjugal, je sais pas ce que ça veut dire, enfin bref, lorsqu'une femme a été violentée, lorsqu'on dénonce, lorsqu'on compte, et que l'on dit à la victime ni oubli ni pardon, j'ai peur qu'on confonde deux sphères. Bien sûr qu'il faut compter, bien sûr qu'il faut en faire un phénomène de société, bien sûr qu'il faut dénoncer tout cela au pouvoir public, et bien sûr qu'il faut de vraies politiques publiques de lutte contre la violence faite aux femmes et de lutte contre la violence tout court. Mais, ensuite, d'enfermer la victime qui a besoin d'un registre intime pour aller mieux dans cette revendication sociétale, c'est là où je me dis, attention, faisons attention. Je parle pas d'instrumentalisation, mais c'est vrai que je me dis, où est ici l'intérêt d'une victime qui est en pleine souffrance, qui doit plutôt occuper la sphère intime pour se réparer, voir des psychologues, s'investir dans sa douleur comme dans une cause nationale juste et légitime, ça risque quand même de la malmener plutôt qu'autre chose.
On va revenir sur tout ça, évidemment, Maître Marie Dosé, mais on va s'arrêter maintenant sur l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par François Audouin à la Une, Emmanuel Macron et les Harkis, la présidentielle qui approche, la crise du Covid toujours, mais d'abord l'affaire des sous-marins vendus à l'Australie.
Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris, ça ne va pas entre nous. Ça ne va pas du tout.
Jean-Yves Le Drian ne décolère pas. Le chef de la diplomatie française en veut aux États-Unis dans l'affaire des sous-marins vendus à l'Australie. Et il n'est pas le seul.
La manière dont les États-Unis ont agi est inadmissible. On n'agit pas comme ça, entre amis et avec des alliés. Et la France et le président ont eu raison d'agir avec fermeté.
Finalement, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Mais l'affaire laissera des traces, car on n'est jamais trahi que par les siens.
Pour les Algériens, on est des enfants de collabos. Et pour les Français, on est des bougnoules.
Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon.
60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron demande pardon aux Harkis au nom de la France.
Madame.
Il est venu vers moi, et il m'a pris la main et il m'a dit « je vous demande pardon ».
La demande première, c'était cette demande de loi, et il y a accédé, et c'est très bien.
Mais pour le maire de Perpignan, Louis Alliot, ce geste est purement politique.
Ce n'est que par calcul électoral, 8 mois avant l'élection.
Je vous propose qu'on commence par Yannick, candidat.
Car pour l'instant, ce n'est pas gagné pour Yannick Jadot. L'eurodéputé vert est certes arrivé en tête de la primaire ouverte des écologistes, mais d'une courte tête seulement devant Sandrine Rousseau.
Ce résultat n'est finalement une surprise que pour les personnes qui n'ont pas saisi ou qui n'ont pas voulu voir les évolutions de la société.
Qu'on nous laisse chasser, qu'on nous laisse tranquille.
Au moment où les écologistes votaient, les chasseurs, eux, manifestaient, comme ici à Amiens.
On se retrouve avec des ministres qui nous aiment pas, qui sont écolos, c'est pas possible. Nous, on fout la paix à tout le monde, on demande juste qu'on nous foute la paix.
Et dans le cortège, le président de la région, Xavier Bertrand.
La ruralité, on la respecte, les ruraux, on les respecte.
Xavier Bertrand en tête du sondage commandé par LR pour tenter de départager les candidats à la candidature. Mais pour l'instant, les militants en sont encore à voter pour savoir qui doit voter. Donc, patience. Un avis, monsieur le président ?
J'ai beaucoup d'amitié pour Xavier depuis très longtemps. Il a été pour moi un très bon ministre. Je dirais le moment venu ce que j'en pense. Moi, j'admire les gens qui font de la politique.
En attendant, à défaut de candidat pour LR, Haro sur le budget 2022.
Le quoi qu'il en coûte sanitaire, oui. Le quoi qu'il en coûte électoral, c'est non, parce que ça se fait sur le dos des Français.
Nous aurions cramé la caisse, laissé filer les déficits.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Dépenser sans compter, pratiquer la politique du chéquier. Mensonge.
On en aurait presque oublié la pandémie de Covid cette semaine. Il faut dire que ça s'arrange. Alors le porte-parole du gouvernement annonce du nouveau pour les départements dans lesquels le taux d'incidence est au plus bas.
À partir du lundi 4 octobre, l'obligation du port du masque à l'école primaire sera levée.
Au moins, on pourra mieux respirer parce que ça commence à être énervant. Chouette.
Et encore merci à François Audouin. Une semaine en France, toujours en compagnie de Maître Marie Dauzé, avocate au barreau de Paris. Maître Dauzé, l'état d'urgence sanitaire, est-ce que c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter et qui vous inquiète ou pas ?
Moi, je pense qu'il faut toujours s'inquiéter de l'état d'urgence tout court, en réalité. Quand on fait les comptes sur 6 ans, 2015-2021, si j'ai bien compté, on est à 3 ans et même un peu plus d'état d'urgence.
Parce qu'il y avait l'état d'urgence sécuritaire.
Bien sûr, avant. L'état d'urgence sécuritaire, l'état d'urgence lié aux attentats de novembre 2015. Et en fait, je lisais cette expression, pour moi c'est exactement ce que je ressens. C'est un doux poison qui vient engourdir notre démocratie. La difficulté que j'ai, c'est que j'ai vu moi ce que l'état d'urgence sécuritaire, pour le différencier de l'état d'urgence sanitaire, avait eu comme conséquence dans le droit commun. On nous avait expliqué au départ que les mesures prises répondaient à l'impératif de la situation liée des circonstances de la situation liée aux attentats.
Et puis on les a gravées dans le marbre de la loi.
On les a gravées et des mesures éminemment liberticides ou en tout cas qui sont tout de même des mesures qu'on pourrait qualifier d'exception. Je parle des perquisitions, je parle des assignations, etc. Donc la difficulté, elle est là et je me demande s'il ne faut pas quand même réfléchir vraiment à limiter les possibilités de prolongement et peut-être même à fixer une date de caducité automatique pour nous empêcher plutôt pour nous obliger de trouver d'autres solutions. Et quel État va pouvoir dire bon, je suis en train de sécuriser les citoyens, à quel moment je vais prendre le risque de leur dire voilà, je ne vous sécurise plus. Et c'est ça en réalité la difficulté, c'est qu'il faut être courageux ou avoir un minimum de courage politique pour dire j'arrête l'état d'urgence, vous n'avez plus besoin d'être sécurisé. C'est pas tout à fait dans la ligne politique actuelle et je pense très sincèrement que ça a des conséquences parfois dramatiques sur notre droit.
Il y a un procès actuellement, procès exceptionnel qui se tient à Paris, celui des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam a revendiqué ses actes devant la cour d'assises spéciale de Paris, devant les victimes. Il l'a clairement revendiqué au nom du lien qu'il fait avec la guerre en Syrie. Il se trouve, Maître Marie Dauzé, que vous avez publié un livre chez Plon il y a quelques années, Les victoires de Daesh, avec ce sous-titre Quand nos peurs fabriquent le terrorisme. Et vous expliquez tout votre combat depuis pour tenter de faire revenir les enfants français qui sont dans les camps kurdes en Syrie. La semaine prochaine, l'affaire arrive devant la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que c'est possible d'aller réclamer ce genre de choses au moment où se tient un procès pareil à Paris ?
Oh mon Dieu, quelle comparaison ! Évidemment.
Si je vous dis c'est parce qu'il l'a revendiqué. Hein,
oui,
c'est vrai qu'il y a le côté émotionnel aussi là.
Oui, mais pour être très clair. Nous ne viendrons à bout du terrorisme que par et grâce à l'état de droit. Ce que Daesh attend de nous, c'est que nous renoncions à l'état de droit. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en refusant de rapatrier des enfants innocents qui ont moins de 6 ans, qui sont en train de croupir dans des camps depuis 3 ans, nous offrons à Daesh et à l'obscurantisme ce qu'il attendait. Voilà, parce que nous montrons que nous cédons à une forme d'opinion publique qui en plus est très mouvante et j'y reviendrai, et en tout cas nous cédons à nos principes qui ont toujours fait que l'état de droit est le plus fort que tout le reste. Ce que je veux dire, c'est que cette audience devant la Cour européenne, elle est extrêmement importante. La Grande Chambre s'est saisie, on plaide la semaine prochaine. La France viole l'article 3 de la Convention en exposant ses enfants à des traitements inhumains et dégradants parce qu'elle refuse de les rapatrier. Enfin, comment peut-on aujourd'hui laisser des enfants français en zone de guerre, alors même que dans ces camps, depuis le début de l'année, 62 enfants sont décédés?
Mais vous savez, Maître Marie Dosé, que malgré ce que vous dites, vous restez inaudible et vous dites même, non seulement inaudible, mais détestée.
Non, alors je vais vous dire, ça aussi...
Ça, vous l'avez écrit, hein?
Oui, je l'ai écrit il y a 3 ans. Et c'est extraordinaire parce que, et c'est tant mieux d'ailleurs, on a un peu tendance à considérer que l'opinion publique, elle ne bouge pas. Et qu'elle est immuable. Et quand on commande un certain sondage en février 2019, on s'y attelle et on se dit l'opinion publique ne bougera pas. L'opinion publique, elle a énormément évolué. Moi, vous savez, à chaque fois que j'interviens sur ces sujets, désormais, c'est plus des menaces ou des insultes que je reçois. Ce sont des demandes de stage. Parce que sachez quand même que aujourd'hui, plus personne, en tout cas chez les sachants, les ONG, les institutions, ne soutient la position de la France. Et que nous aurons rendez-vous avec cette histoire et qu'il va falloir, à un moment donné, se regarder dans un miroir. Et je peux vous assurer que moi, je ressens aujourd'hui énormément de soutien. Énormément de soutien. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'on puisse s'en prendre à des enfants innocents.
Donc l'opinion publique évolue. Il n'en reste pas moins qu'on reste aussi pour beaucoup de choses dans le domaine de l'émotion. Et là, je voudrais avoir votre avis sur cette loi qui est en débat au Parlement concernant l'irresponsabilité pénale. Ça fait suite à l'affaire Sarah Halimi. On est en train de voter une loi pour qu'on puisse éventuellement juger les personnes qui auraient été considérées comme démentes à partir du moment où elles ont pris les produits qu'elles auraient pu passer à l'acte sous l'effet de ces produits.
Alors, ça,
qu'est-ce que vous dites, Maître Marie Dosé, là ?
Vous savez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur une émotion, une loi. Il n'est pas question pour moi de qualifier ce drame de fait divers, mais une émotion, une loi. Ce qui est intéressant, c'est que l'ancienne garde des Sceaux avait commandé un rapport d'experts sur l'opportunité ou non de faire évoluer la loi. Et que sur le bureau du garde des Sceaux actuel se trouve ce rapport
de Dominique Rimbaud, notamment,
qui conclut, non, il ne faut pas changer la loi. Et malgré tout, alors même que le garde des Sceaux nous avait asséné qu'il serait justement celui qui ne céderait pas à l'émotion, qu'il ne fallait surtout pas légiférer avec et pour l'émotion, et qu'au contraire, le droit devait être éprouvé avant d'être réformé. Eh bien, il fait exactement la même chose.
Vous estimez qu'il a renié ses idées, Éric Dupond-Moretti, depuis qu'il est à la chancellerie?
Je sais même pas s'il renie ses idées, mais en tout cas, il fait l'exact contraire de ce qu'il a toujours défendu. Enfin, moi, je veux bien comprendre que quand on est avocat, on n'a pas la même robe que quand on est garde des Sceaux et qu'il y a des concessions à faire.
Il cède à l'émotion pour vous.
Voilà. Et vous voyez, je reviens sur l'opinion publique. Mais enfin, si on avait décidé que l'opinion publique devait régner en France, la peine de mort, elle n'aurait jamais été... Elle n'aurait jamais été abolie. Quand on pose la question à François Mitterrand avant les élections présidentielles, Monsieur François Mitterrand, une immense majorité des Français sont contre l'abolition de la peine de mort, allez-vous malgré tout l'abolir? Il répond, non seulement je vais l'abolir, mais je vais être président de la République. Et là, force est de constater que, les citoyens se disent, c'est peut-être ça aussi un chef d'État. Quelqu'un qui sait prendre une belle distance avec l'émotion populaire qui ne permet pas toujours de bien légiférer ou de bien régner, entre guillemets.
Et vous avez d'ailleurs écrit qu'il aurait renié Paul Ricoeur, c'est ce que vous dites d'Emmanuel Macron. Dans l'actualité de la semaine, Maître Marie Dosé, il y a aussi ce cri d'alarme de la contrôleure des lieux de privation de liberté, Dominique Simonneau, à propos des locaux de garde à vue. Elle a visité 17 commissariats de police entre novembre 2020 et juillet 2021. Elle y a découvert des conditions d'hygiène déplorables. On écoute Ariane Grissel.
La contrôleure a visité 17 commissariats dans toute la France. Pour 15 d'entre eux, Dominique Simoneau dresse un constat accablant. C'est notamment le cas de celui de Calais.
Il y avait une odeur, mais à tomber raide, parce que la chasse d'eau était bouchée. Il y avait normalement un robinet pour donner de l'eau aux gens. Il coulait goutte à goutte. Il y avait 3 hommes là-dedans, dont 2 portaient pas le masque. Les policiers eux-mêmes avaient honte. Ils nous ont dit, mais dites dans quoi nous aussi on est obligés de vivre.
Dans plusieurs commissariats, les gardes à vue se passent la même couverture pendant des semaines, sans parler des nombreuses autres lacunes en termes d'hygiène relevée par Dominique Simoneau.
Pas d'eau, pas de savon, c'est de la bonne volonté du policier. On donne pas de gel aux gardés à vue parce que soi-disant ils le boivent. Ces gens-là, ils vont sortir. Certains vont aller vers un tribunal, d'autres vont être relâchés parmi nous tous.
Un problème de santé publique donc pour la contrôleure des lieux de privation de liberté. Elle recommande notamment un accès facilité aux sanitaires pour les gardés à vue ou un nettoyage plus fréquent des cellules. De son côté, le ministère de l'Intérieur souligne qu'il s'agit là de 17 commissariats alors qu'il y en a plus de 600 en France, où la dignité des personnes est selon lui largement respectée. Il ajoute qu'un programme de rénovation est en cours. Dominique Simoneau rappelle que certaines des cellules qu'elle a visitées avaient déjà été épinglées par la précédente contrôleure. Pourtant, dit-elle, aucun des travaux promis n'a depuis été entamé.
Voilà, Gérald Darmanin relativise, mais le syndicat des commissaires de la police nationale estime lui que c'est la totalité des locaux de garde à vue qui sont à revoir.
Mais évidemment, nous, avocats qui courons dans les commissariats pour visiter nos clients à la première heure du placement en garde à vue, enfin, nous savons pertinemment dans quel état sont ces cellules. Enfin, moi, c'est une mesure de coercition, c'est une mesure de privation de liberté pour que des investigations puissent être réalisées. Mais dans quelles conditions sont ces justiciables? Et des mineurs, parfois. Mais des mineurs. Mais c'est un choc dont certains se relèvent difficilement d'être placés en garde à vue. D'abord, il y a cet isolement, mais il y a surtout cette puanteur, cette proximité avec la peur. Enfin, on peut pas continuer à laisser des locaux dans un état pareil. Mais voilà, des années que nous le disons et que nous le constatons.
On va poursuivre nos réflexions, Maître Marie Dosé. On va parler de vous aussi, de votre parcours dans un instant. Mais d'abord, un hommage à quelqu'un qui nous a quitté il y a quelques jours, le chanteur belge Julos Bocarn. C'était un humaniste, un écologiste avant l'heure, il y a longtemps, très longtemps. En 1975, il avait perdu sa femme, assassinée par quelqu'un qui n'avait plus toute sa tête. Il avait alors écrit un très beau texte que Claude Nougaro avait tenu à réciter, lui aussi, sur du piano. C'est pour vous.
Extrait de la lettre que Julos Bocarn écrivit dans la nuit du 2 au 3 février 1975, après la mort de sa femme assassinée par un homme devenu fou. Ami bien-aimé, ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers.
Voilà pour cette lettre de Julos Bocarn, lue par Claude Nougaro et sélectionnée pour nous par Djoubaka.
France Inter. Une semaine en France.
Toujours en compagnie de Maître Marie Dosé, avocate au barreau de Paris. Si on a choisi cette lettre, Marie Dosé, c'est un petit peu parce qu'il y a du piano et que c'était votre première passion, c'est ça?
Oui, ça a été ma première passion, oui, bien sûr.
Vous auriez voulu en faire votre métier?
Ah oui, à l'époque, je pensais que mon existence serait musicale, ou en tout cas artistique.
Vous venez de Lorraine, Maître Marie Dosé, vous êtes née en 74, on peut le dire. Vous avez grandi à Commercy, dans la Meuse, avec des parents enseignants, si j'ai bien vu, un instituteur, un père engagé en politique, maire, député, des grands-parents ouvriers. C'était donc la musique votre premier métier. Puis finalement, vous avez choisi le droit et vous dites à ce propos, j'ai choisi le contraire de la musique. Le oui. droit, c'est le contraire de la musique?
Ah oui, disons que je n'ai pas choisi d'arrêter la musique. Hein. J'ai été contrainte d'arrêter. Voilà, j'ai eu un problème de santé qui fait que je n'avais plus le choix et que je n'ai pas supporté l'idée d'être musicienne au rabais, quoi. C'est-à-dire et c'est pas du tout une insulte, mais de quitter mon instrument pour essayer de donner des cours particuliers de solfège. Voilà, j'avais pas cette volonté là et donc je par défiance puisque c'est pas moi qui avais choisi d'arrêter, je me suis dit eh bien dans ce cas-là je vais choisir le contraire de la musique. Et oui, pour moi c'était médecine ou droit. Mais par ignorance hein d'ailleurs. Je crois quand même que lorsqu'on travaille puisque j'ai arrêté les études après le baccalauréat, donc 6 heures, 7 heures par jour son instrument, on a une hygiène de travail et on a peur de la perdre. On en a besoin. Surtout quand on est obligé de la quitter, on a besoin de la retrouver. Donc pour moi, la fac de lettres, il n'y avait pas assez de travail. Je voulais m'abrutir, comme on doit s'abrutir de gamme lorsqu'on est encore au conservatoire. Donc voilà, je voulais m'abrutir de texte et de par cœur, et c'est la réputation de la faculté de droit.
Et vous êtes allé vous abrutir à la fac de droit de Nancy, et puis un jour il y a eu un déclic. Maître Marie Dosé, ce déclic, c'est une voix qu'on va écouter maintenant, celle de Maître Henri Leclerc, 65 ans de barreau au compteur quand même, un orateur hors pair qui parle de celui qu'il appelle son ange, celui qui lui souffle les mots à l'oral lorsqu'il plaide.
J'ai découvert quelque chose qui est peut-être une faculté propre de l'orateur, de celui qui a une capacité pour cela, c'est-à-dire que alors que j'ai préparé un discours, que je me suis organisé, que toi, lorsque je me trouve en face de ceux que je dois convaincre, je les vois, je les regarde, j'ai envie qu'ils m'entendent, il y a quelque chose qui me parle. Et je veux les convaincre. Et pour les convaincre, les mots arrivent différemment. Ils arrivent d'ailleurs, ils sont plus dans le même ordre. Il y a une forme de musique, il y a quelque chose qui arrive qui fait que je fais un discours. Et qui, malgré la préparation intensive, toujours nécessaire d'ailleurs, mais est quand même un discours improvisé et différent. Et là, j'ai appelé ça mon ange. Et que j'ai retrouvé, dont je raconte que je l'ai retrouvé. Bah oui, pas toujours d'ailleurs. Il y a des fois où je l'ai pas suivi. Il y a des fois où j'ai pas voulu l'écouter. Il y a des fois où il est pas venu. Bon, mais quand ça a marché, c'était mon ange.
C'est vrai que c'est un moment très particulier, la plaidoirie, Maître Dosé.
Ah oui, c'est un moment où on s'oublie. Hein. Mais il y a certaines plaidoiries, notamment avec la pression et puis aux assises, quand on plaide une heure et quart, il m'est arrivé moi de m'asseoir et de ne pas savoir du tout ce que j'avais plaidé. Alors que j'écris tout. J'écris tout parce que j'ai peur, peut-être aussi que c'est le réflexe de la partition. J'écris tout à la virgule près et je ne lis jamais rien, ou très très rarement. Et c'est vrai que...
Et c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs.
C'est peut-être mieux comme ça. Mais oui, il y a... Allez, j'aime pas trop tomber dans l'excès, mais parfois on a le sentiment un peu d'une transe, quoi. De quelque chose qui vous emporte, qui vous dépasse, et j'espère que c'est à ce moment-là qu'on convainc et pas qu'on agace, je ne sais pas.
C'est lui qui vous a donné envie de faire ce métier.
Ah oui, c'est lui. Mais je savais pas qui c'était, hein. Je suis entrée par hasard dans un tribunal et j'ai vu ce petit avocat faire tomber, parce qu'il faisait tout le temps tomber ses feuilles et ses crayons sans arrêt, je l'ai su plus tard. Mais, d'abord, quand je l'ai entendu plaider, je me suis dit, mais c'est un concerto. Et la musique me manquait. Oui, il m'a vraiment donné envie de cette profession, de l'exercer, de tout en lui est ce qu'il y a de plus beau dans notre profession.
Et c'est avec lui aussi que vous avez appris en partie le métier, Maître Marie Dosé. Vous avez dit, il fallait faire quelque chose où on s'abrutit dans le travail. Et très franchement, le métier d'avocat, c'est très prenant. C'est un boulot énorme. On a tout le temps la tête là-dedans. Est-ce que vous arrivez à décrocher simplement, par moment, de vos dossiers?
Or, je ne sais pas si on arrive à décrocher, mais en tout cas, il faut arriver à tourner des pages pour vite en tourner d'autres. C'est ça aussi. Mais c'est vrai que là où c'est passionnant, c'est que le métier de pénaliste, ça reste très artisanal. Quand on fait du pénal de terrain, c'est-à-dire que le matin, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Est-ce que quelqu'un va être interpellé? Donc, va-t-il falloir aller en garde à vue? Un de mes clients en prison va mal, il faut que j'aille en prison. Une femme arrive dans votre bureau et puis vous demande de l'aide. Donc, en fait, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement riche et en même temps de toujours nouveau, quoi. Il faut toujours se renouveler et passer d'une humeur à une autre, d'une histoire à une autre. C'est vraiment un métier. Vous savez, c'est vraiment une profession merveilleuse. C'est une profession difficile. Difficile parce qu'elle est ingrate. Il faut pas croire que ceux qu'on défend vous remercient, vous adorent. Il faut aimer défendre. Il faut pas forcément aimer ceux qu'on défend. Il faut aimer défendre.
On peut défendre quelqu'un qu'on aime pas.
Mais bien sûr. Mais si vous pensez qu'on est tous amis ou qu'on est tous en adoration devant ceux qu'on défend, c'est pas ça du tout. À un moment donné, il faut dire quelque chose au juge de celui qu'on défend. Mais il n'y a pas besoin d'aimer celui qu'on défend pour le défendre merveilleusement bien. J'en suis persuadée.
C'est ça le plus difficile dans ce métier, c'est de réussir à parler pour celui qu'on défend.
Oh, c'est une lourde charge, quoi. On a toujours l'impression de pas être à la hauteur. C'est pour ça que je comprends pas très bien comment il peut y avoir autant d'égo dans cette profession, parce que pour moi c'est vraiment l'école du doute et puis la peur de ce que vous avez sur les épaules, quoi. Moi j'ai plus le temps passe et plus j'ai peur en réalité, plus je doute.
C'est vrai.
Oui, vraiment.
Et le fait d'être une femme,
c'est ce qui m'est arrivé de mieux avec cette profession. Non, mais je le disais tout à l'heure, c'est un milieu très misogyne. Mais parce que les femmes pénalistes, il y a 20 ans, on était très peu. Et puis vraiment, il y avait beaucoup de collaboratrices, de grands avocats, mais on était très peu. Et aujourd'hui, on est nombreuses, on s'impose et on a même réussi à changer la plaidoirie. On n'est plus sur les effets de manche grâce aux femmes, on est plus sur les dossiers. On est beaucoup plus sur des choses précises, sur un art oratoire peut-être plus fin. Et je trouve plus intelligent parfois.
Moins tonitruant, on va dire. Voilà. Le plus beau métier du monde, en tout cas, hein, c'est ce que vous dites, Maître Marie Dosé. Je renvoie à votre livre, Éloge de la prescription. C'est aux éditions de l'Observatoire. C'est à contre-courant, je le disais, mais c'est aussi une vraie leçon de droit sur la prescription. Il faut le lire. Merci mille fois.
Merci à vous.